Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Nucléaire, danger immédiat, titre choc pour un ouvrage à paraître dans quelques jours, ouvrage au contenu glaçant, précision dans un instant de Tiphaine et Cicéron. Nous irons dans cette édition à Istanbul pour constater que les diplomaties ne s'émeuvent qu'à mi-mot de l'offensive turque au nord de la Syrie qui entre dans sa troisième semaine. Angélique Kourounis suit pour nous à Athènes une nouvelle manifestation contre le compromis du gouvernement quant au futur nom de la Macédoine voisine, un cortège qui surtout offre une tribune à tous les opposants. À Alexis Tsipras. La face cachée du globe, signée ce dimanche Eric Biegala, vous emmènera entre autres en Ukraine, au Nigeria et en Birmanie. Malfaçon d'origine, fragilité venue avec le temps, contrôle superficiel, défaut sous revêtement. Un ouvrage à paraître mercredi, mais au jour opacité et déni du nucléaire français. Le journal du dimanche en publie ce matin les bonnes feuilles. Bonjour Tiphaine Cicéron.
Bonjour.
Tiphaine, deux volets dans ce livre, des constats français et un passé, un passif belge. Au sujet tout d'abord de nos centrales, que retenir ?
D'abord que le danger serait immédiat, c'est le titre du livre de Thierry Gadeau et Hugues de Meude, deux journalistes qui publient leur ouvrage chez Flammarion. Et parmi les témoignages qu'ils relaient, celui du président de l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, risque de faire beaucoup réagir. Pierre-Franck Cheven n'hésite pas à utiliser une référence marquante pour évoquer la centrale du Tricastin dans la Drôme, celle de Fukushima. Les quatre réacteurs du Tricastin sont situés à 6 mètres en dessous du niveau d'eau du canal de Donzère-Mondragon, à proximité immédiate du Rhône, ce qui pourrait conduire, explique l'ASN, à un désastre en cas de séisme. En septembre, la centrale a dû fermer sous la pression de l'ASN, le temps qu'EDF renforce la digue de protection. Les travaux sont terminés et trois des réacteurs sont de nouveau en fonction dans cette centrale, qui pour les auteurs du livre est la pire du pays. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi des fissures dans ces cuves. Un problème qui ne concerne pas d'ailleurs que la centrale du Tricastin. 9 autres cuves en exploitation en France ont aussi des fissures et ce depuis leur mise en service. Ce sont des fissures faites à la construction. EDF les surveille tous les 10 ans.
Tiphaine, les travaux réalisés cette fois il y a quelques années en Belgique par deux chercheurs, tout sauf anti-nucléaire, sont là encore riches d'enseignements.
Oui, une étude en 2015 qui nous apprend également que c'est le fait de faire fonctionner la centrale qui crée des fissures. Pour le moment, jamais on n'avait fait le lien de manière scientifique. C'est la Belgique d'abord qui s'en est rendu compte en vérifiant l'état de ses cuves. EDF le fait aussi en France, bien sûr, mais les sondes utilisées vont seulement jusqu'à 25 mm en profondeur dans la couche d'acier, qui fait en tout 200 mm. Après la Belgique, la France a dû s'y mettre. Elle est allée un peu plus loin, 80 mm. Et là, on découvre que 6 cuves en France ont aussi des fissures. Et EDF n'a pas encore vérifié toutes ses centrales.
Merci à vous, Tiphaine Cicéron. Deuxième journée de mobilisation devant l'hôpital parisien du Val-de-Grâce. Le collectif Droit au Logement en appelle au chef de l'État, chef des armées, et lui demande d'ouvrir aux mal logés les portes de cet ancien établissement militaire. Second tour de deux élections législatives partielles dans le Val-d'Oise et le territoire de Belfort. Dimanche dernier, le taux d'abstention a dépassé les 70%. Le gouvernement israélien va légaliser une colonie sauvage en Cisjordanie, celle de Havat Gilad, où vivait un rabbin assassiné le 9 janvier dernier. Lors des funérailles de Raziel Sheva, le ministre de l'Éducation avait répondu aux appels à la vengeance en appelant à construire davantage de colonies. Colonies illégales en vertu du droit international. Deux semaines de combats et de bombardements menés par l'armée turque dans le nord de la Syrie et rien ne semble arrêter Recep Tayyip Erdogan qui, hier, a donné la répartie à Emmanuel Macron, le président français. A dit son inquiétude. Le président turc lui répond, je cite, « La Turquie ne convoite pas le territoire d'un autre pays ». Fin de citation. Les ONG et l'opposition à la rue en Turquie ont beau dénoncer crimes et exactions. Ankara poursuit son opération sans être malmenée par les chancelleries. Alexandre Billette nous appelle d'Istanbul.
Recep Tayyip Erdogan l'assure, il ne s'agit pas pour les troupes turques d'occuper le nord de la Syrie, mais bien, selon l'argumentaire répété par Ankara, de nettoyer la région de ce que la Turquie qualifie de force terroriste. Mais depuis le début de l'opération, il y a précisément 2 semaines, les critiques en provenance de l'étranger ont été somme toute assez mesurées. En dépit des appels à la retenue ou d'une très diplomatique inquiétude évoquée par les alliés d'Ankara, après avoir évoqué ses craintes concernant une invasion turque en Syrie, Emmanuel Macron s'était d'ailleurs dit rassuré jeudi par les commentaires du chef de la diplomatie turque. Et sur le terrain, en revanche, on semble loin de l'opération éclair évoquée d'abord par les autorités turques. Et si l'offensive s'est intensifiée depuis une semaine, reste que les forces turques et leurs alliés rebelles syriens ne sont toujours pas parvenus à prendre la ville d'Afrin. La journée de samedi a été d'ailleurs la plus meurtrière pour l'armée turque, avec 7 soldats tués sur le terrain. L'armée turque qui ne semble avoir pris pour le moment que quelques villages et le contrôle de certaines collines stratégiques. Malgré tout, les autorités turques assurent que l'intervention se déroule comme prévu, mais semblent désormais bien incapables de s'avancer sur un calendrier précis pour la suite de l'opération.
Alexandre Biette à Istanbul, des centaines de milliers de personnes attendues dans les rues d'Athènes pour contester un compromis envisagé par le gouvernement d'Alexis Tsipras sur le futur nom de la Macédoine voisine. Il en va de la stabilité dans les Balkans, arguent les autorités grecques, qui seraient prêtes à accepter la locution Haute Macédoine ou bien Macédoine du Nord. Il en va de l'héritage d'Alexandre le Grand. Au-delà de ces raidissements patrimoniaux, il y a là une fenêtre d'opportunité politique. Bonjour Angélique Cournis.
Bonjour.
Angélique, vous êtes dans le cortège, mobilisation massive, que diriez-vous ?
Ah oui, mobilisation massive, en tout cas côté opposant à tout compromis avec la Macédoine, l'ex-république yougoslave de Macédoine, selon la formule consacrée. La place de la Constitution, la fameuse place Siderma, est absolument noire de monde. Il y a des drapeaux grecs partout, mais aussi des drapeaux macédoniens côté grec, c'est-à-dire le drapeau bleu frappé de l'étoile jaune, le drapeau de Vergina, qui, il faut se rappeler, était le premier drapeau de la République yougoslave de Macédoine, et que la Grèce, à l'époque, en 1991, au moment de l'indépendance, avait demandé, exigé qu'il ne soit plus utilisé par sa voisine. Alors, il y a des gens qui sont venus en costume, et il y a aussi des gens qui...
On vous entend difficilement, aussi, oui, poursuivez, oui.
Vous m'entendez ?
De nouveau, oui.
Il y a aussi des gens qui sont venus du Canada, des États-Unis, d'Australie, parce qu'ils estiment que le pays est en danger. C'est d'ailleurs, vous l'avez dit, la rhétorique qui est utilisée par les organisateurs qui, eux, attendent 1 million de personnes. Il faut quand même rappeler que tout le monde n'est pas d'accord sur cette histoire en Grèce et qu'il y a aussi eu une contre-manifestation de gens opposés à ce qu'ils appellent ce délire nationaliste infondé.
Dernier point, Angélique, il y a là réuni aussi en quelque sorte bien des sensibilités politiques, divergentes bien sûr.
Absolument. À déplorer le parti néo-nazi grec qui tente, comme en 1991, au moment des manifestations massives, de récupérer ce mécontentement des gens, de surfer sur ce que les gens estiment, je cite, la dernière capitulation d'Alexis Tsipras. Il y a des gens de droite, il y a des gens conservateurs, il y a des libéraux, il y a aussi des gens du Parti Socialiste et même du Parti Communiste qui veulent se situer au-delà de toute récupération partisane et qui veulent jouer encore une fois la carte de la patrie en danger, eu égard à ce qu'ils appellent les visées irrédentistes de la République de Macédoine, ex-République yougoslave de Macédoine, selon les visées, la formule consacrée grecque, sur le territoire grec. À rappeler que la Grèce
pour conclure, oui.
50% du territoire macédonien, la Macédoine actuelle 40% et le reste est occupé par la Bulgarie.
Merci infiniment Angélique Cournis en direct d'Athènes. Le futur proche de l'Équateur se précise ce jour à tout le moins à l'avenir politique de l'ancien président Rafael Correa. Les 13 millions d'électeurs du pays sont en effet convoqués à répondre à 7 questions d'un référendum, parmi lesquelles celle de la limitation des mandats. Des précisions de notre correspondant en Équateur, Eric Sanson.
Même si le régime actuel s'en défend, le référendum de ce dimanche est une claire invitation à tourner la page de 10 ans de révolution citoyenne à la mode Rafael Correa. Si elles sont votées, 3 des 7 questions mettraient concrètement fin à la carrière politique de Rafael Correa en interdisant notamment la réélection indéfinie. Une autre prévoit d'interdire toute participation politique aux personnes condamnées pour corruption, ce qui pourrait éventuellement un jour bloquer l'ancien président, lui qui dans la presse vient d'être accusé d'avoir sous-estimé le prix d'achat de sa maison et donc ses obligations fiscales. Une autre question propose de restructurer le conseil nommé par l'ancien régime pour fomenter la participation citoyenne et nommer les autorités de contrôle. Ce conseil, dans les faits, n'avait pas contrôlé grand-chose et certainement pas les cas de corruption qui se multiplient aujourd'hui. Tous ces hauts fonctionnaires critiqués, pour certains recherchés par la justice, pourraient être remplacés de façon provisoire jusqu'en 2019. Cela provoquerait une décoréisation du pays avec le risque de permettre au président Moreno de s'approprier temporairement tous les pouvoirs de l'État. Si les derniers sondages qui prévoient la victoire du oui se confirment, le président Moreno pourrait asseoir sa légitimité, lui qui doit compter sur l'opposition pour gouverner, le mouvement officiel étant fracturé entre ses partisans et ceux de Rafael Correa.
Éric Sanson, il est 12h40 sur France Culture, l'heure de la face cachée du globe, que nous présente ce dimanche Éric Bigala. Bonjour Éric.
Bonjour Mathieu. Parmi les événements qui se sont déroulés durant la semaine et qui n'ont pas toujours fait la une de vos journaux mais qui méritent d'être mentionnés, on notera lundi en Ukraine le choc pour les libéraux du pays après la gigantesque parade militariste dans le centre de Kiev, la capitale, d'un groupe d'extrême droite. Plus de 600 hommes en uniforme y ont prononcé dimanche une sorte de serment public promettant de garantir l'ordre et la sécurité dans le pays en lieu et place de la police. Mardi, on apprenait que le Nigeria avait fini par livrer au Cameroun le leader de l'insurrection anglophone camerounaise qui s'était réfugié sur son territoire. Les deux pays ont manifestement décidé de collaborer sur ce dossier. Jeudi, en Birmanie, 5 fosses communes renfermant des centaines de cadavres de Rohingyas ont été identifiés par les reporters de l'Associated Press enquêtant auprès des survivants dans les camps de réfugiés au Bangladesh. Les autorités birmanes nient toujours que le moindre massacre ait jamais eu lieu dans l'État Rakhine, d'où 600 000 Rohingyas ont été expulsés. Et jeudi toujours, en Turquie cette fois, le directeur d'Amnesty International, Taner Kılıç, incarcéré depuis 8 mois, a été dans la même journée remis en liberté conditionnelle par une cour d'Istanbul, puis remis en détention provisoire quelques heures plus tard. Le directeur de l'ONG est accusé d'appartenance à une entreprise terroriste. L'association Survie publiait cette semaine un rapport sur les activités de la France au Rwanda avant et pendant le génocide de 1994. Un rapport qui donne quelques informations inédites sur l'implication du célèbre mercenaire français Bob Denard, surnommé le corsaire de la République, dans la fourniture d'armement aux génocidaires Hutus. Thomas Borel, de l'association Survie, au micro de Valérie Crova.
Il a en fait monté des expéditions et été rémunéré pour ça par le pouvoir génocidaire via la BNP à Paris. On a notamment ce reçu pour 1 million de francs début juillet 1994 retiré à l'agence centrale de la BNP à Paris pour les services facturés par sa société auprès des génocidaires rwandais. Évidemment, il faut replacer ça dans le fait que Bob Denard, mercenaire, n'agit pas complètement déconnecté des services de renseignement français. Donc pour nous, ça vient démontrer une fois de plus que l'État français savait ce qui se passait, laissait faire et avait peut-être même une certaine bienveillance vis-à-vis de ce type d'expédition.
Est-ce que Bob Denard a acheté des armes qui auraient pu être utilisées au moment du génocide ?
Il y a quelques éléments qui laissent penser qu'il aurait pu aussi participer à ça. Évidemment, ce serait à la justice de s'en saisir. Et alors, Bob Denard, lui, n'est plus là. Il est décédé en 2007. Mais par contre, il y a d'autres affaires judiciaires en cours qui pourraient être intéressées par ces éléments. Il y a évidemment la plainte contre la BNP Paribas qui avait été déposée au mois de juin pour d'autres achats d'armes qui étaient passés par une filiale aux Seychelles. Et puis, il y a des démarches judiciaires aussi sur les livraisons d'armes françaises que l'association Survie a déposée au mois de juin. C'est une plainte qui vise en fait des responsables politiques et militaires français pour avoir organisé et facilité des livraisons d'armes aux génocidaires à la fin du génocide, donc au moment où le génocide était connu et condamné au niveau international, notamment par l'ONU.
Et puis en Inde, dans le cadre du festival Bonjour India, qui vise à construire des ponts entre les sociétés, deux journalistes de Radio France ont parcouru le pays pendant plusieurs semaines à la rencontre de jeunes Indiens qui luttent contre les discriminations ou les violences religieuses. Elles ont ainsi monté une émission de radio en direct avec certains d'entre eux et l'ont présentée dans plusieurs villes indiennes pour entamer le dialogue sur la tolérance. Notre correspondant en Inde, Sébastien Farsi, y a assisté à New Delhi.
Je me suis toujours demandé si nous étions inférieurs et pourquoi nous sommes traités ainsi. Pourquoi nous n'avons pas le droit d'aller dans certains endroits ?
Sumit Samos est un Dalit. Il vient de cette communauté qu'on appelait avant les intouchables. Dans son village de l'est de l'Inde, ses hors castes sont exclus de tout. Il doit vivre à l'écart et boire une eau différente. Mais Sumit, lui, s'est battu pour en sortir et il étudie aujourd'hui dans l'une des plus grandes universités publiques de New Delhi, en anglais.
Mes parents n'ont jamais étudié, mais ils savaient que la seule chose qui peut nous aider à obtenir un statut dans la société et donc une meilleure vie, c'est l'éducation. Aujourd'hui encore, ils se moquent de ce que j'étudie, mais ils sont heureux que j'étudie.
Trois autres jeunes se retrouvent sur la scène d'un amphithéâtre en plein air de New Delhi lors de cette émission de radio en direct organisée par les journalistes françaises Aurélie Charon et Caroline Gillet. Elles y présentent et croisent les destins d'une jeune bosniaque dont la vie a été bouleversée par la guerre religieuse dans son pays et celui d'un homme hindou de la région du Gujarat en Inde. Celui-ci a été témoin de pogroms entre hindous et musulmans et milite au quotidien pour empêcher les conflits entre les deux communautés. Aurélie Charon.
On les a choisis tous les quatre parce que c'est des gens qui se sont autorisés à aller là où on les attendait pas, là où c'était pas prévu qu'ils soient. Et c'est comme ça qu'on a fait pas mal de portraits de jeunes dans plein de villes différentes. Rien ne prédisait qu'ils seraient là. Ils le doivent qu'à eux-mêmes, à leurs décisions. Et ça, c'est des histoires qu'on a envie d'entendre.
Les deux journalistes ont déjà mené ces radio live avec des Palestiniens, des Colombiens ainsi que des Algériens.
La face cachée du globe à retrouver sur franceculture.fr. Les très grandes lignes météo de l'après-midi, du soleil des régions méditerranéennes aux Alpes, petite chute de neige vers les Ardennes et le Limousin.